Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Géraud et vous êtes actuellement sur le podcast de Dr Love, le service d'accompagnement pour célibataires que j'ai fondé. Dans ce podcast, je parle d'amour à l'heure des apps de dating, seul ou avec des experts, et avec une ambition, vous donner les clés pour vivre l'émotion ultime qu'est l'amour. En espérant que ça vous plaise et surtout que ça vous aide, bonne écoute. Durant l'été 2022, j'ai découvert un peu par hasard un livre. Son titre, Psychologie du sentiment amoureux et de la séduction, ce que la science en dit. Bon, je dois l'avouer, au début, je me suis dit que ça allait être encore un de ces livres superficiels nous expliquant qu'il était possible de récupérer son ex en trois techniques infaillibles. Oui, il y a beaucoup de bouquins qui promettent ça. Eh bien, je me suis totalement trompé. Ce bouquin est une mine d'or et je l'ai dévoré. Je l'ai même relu deux fois pour vous dire. En fait, l'auteur de ce livre, Philippe Dilewski, psychologue de formation, a décidé de répondre à de grandes questions sur l'amour et la séduction, mais avec une ligne directrice, en se basant sur la science. Et c'est ça qui rend ce bouquin extrêmement intéressant. En disant ça, vous vous dites peut-être que le livre doit être très dur à lire, voire imbitable. Eh bien non, justement. Philippe a consulté des milliers d'études et les a vulgarisées pour nous. Et il va même jusqu'à donner des conseils concrets pour notre vie sentimentale. Le tout avec beaucoup d'humour, et j'ai même envie de dire avec un humour belge, impertinent et décalé. Car oui, vous allez le découvrir, mais Philippe vient du plat pays. Bref, vous commencez à me connaître, mais moi, quand je kiffe quelqu'un et que je respecte son travail, je l'invite à discuter afin qu'il nous partage son savoir. Mesdames, messieurs, préparez-vous pour un voyage où nous allons tenter d'apporter un peu de rationalité à la chose la plus irrationnelle qui soit, l'amour. Salut Philippe.
Bonjour Antoine.
Comment ça va?
Écoute, tout va bien. Là où je suis, commence à faire nuit et il fait bon. Tout va bien.
Bon, bah écoute, super. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, petite question d'abord. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intro? Ça va?
C'est très bien. Je me sens extrêmement fier de ce que j'entends. J'ai mon cou qui gonfle. Voilà, tout va bien.
Et ça permet aussi aux auditeurs, justement, d'entendre ce léger accent belge dont je parlais un peu dans l'introduction.
Je peux le faire plus fort ou moins fort, écoute, sur demande.
Bah écoute, comme tu le sens.
Ça va.
Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, et pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Oui, alors, en quelques mots. Donc, Philippe Dilewski, belge, originaire de cette riante cité qui s'appelle Charleroi. Voilà, qui a reçu le titre de ville la plus laide du monde. J'ai 56 ans, je vis pour le moment en Thaïlande. J'ai une formation de psychologue clinicien, dont je n'ai jamais fait grand-chose, puisque dès mes premiers patients, j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Donc, j'ai travaillé à la protection de la jeunesse une petite année, et puis en même temps, j'ai monté ma première boîte de conseil en ressources humaines que j'ai dirigé pendant 15 ans avant de me dire que j'en avais marre et de devenir chasseur de tête, mais au sens propre du terme, puisque je me suis mis à faire de la recherche de personnes disparues. Voilà, j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et puis, j'ai commencé à écrire, qui était un rêve de gamin. J'ai eu de la chance, j'ai été publié tout de suite, puis j'ai continué, puisque j'étais publié tout de suite. Je me dis, un coup de chance, on verra s'il y en a deux. Et il y en a eu deux, il y en a eu trois, il y en a eu quatre, enfin voilà, donc bref. Maintenant, écrire, c'est mon activité principale. Pas la seule, mais principale.
Et petite question aussi, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce bouquin dont on va parler pendant l'interview, donc Psychologie du sentiment amoureux et de la séduction, ce que la science en dit? À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais écrire un bouquin là-dessus?
À 14 ans.
Et comment? Vas-y, explique-nous.
je veux dire, la plupart des gars, pas tous, l'adolescence, question séduction, c'est une époque épouvantable. Et pour moi, ça l'était. C'était épouvantable. Ça n'était que râteau, échec, rejet en tout genre, comme beaucoup. Hein. Et je me suis dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, j'ai commencé à réfléchir à pourquoi tant d'échecs. Pourquoi est-ce que je suis le meilleur copain des filles de l'école? Je ne veux pas être leur meilleur copain. C'est pourtant ce que j'étais. Et puis, plutôt que de penser du mal d'elles, je me suis dit, faut que ce soit moi qui
m'améliore. Qui te remette en cause.
Ouais, tout le temps.
T'en parles d'ailleurs dans ton bouquin.
C'est le truc numéro un, c'est le plus important. Ne cherchez pas la faute chez les autres, cherchez-la en vous, parce que quand c'est chez les autres, vous ne pouvez rien y changer. Donc voilà, et puis après, j'ai fait des études de psycho, pour la même raison d'ailleurs, voilà, pour essayer de comprendre les filles.
Parce qu'il y avait beaucoup de filles dans les classes ou
Les deux. D'abord parce qu'il y avait, je vais le dire en français de France, il y avait 90% de filles. Et aussi parce que je voulais apprendre tout ce que je ne comprenais pas. Donc, j'ai pas été, pour ça, je n'ai pas été déçu. Je ne suis pas sorti de là grand psychologue clinicien, mais j'avais compris deux, trois trucs. Et voilà. Donc,
Ok.
c'était.
Bon,
Donc,
bah écoute.
je pense que déjà à ce moment-là, je pensais déjà à ça. Et donc, ben, j'écris sur des sujets qui me tiennent à cœur et où je cherche des réponses et puis je les écris.
Super. Et en interrogeant la science, en l'occurrence, et c'est ce que je trouve
C'est
extrêmement
ça.
intéressant. Alors, durant ce podcast, moi, je vais me faire le porte-parole des célibataires que j'accompagne ou qui me suivent, et on va donc s'interroger sur les grandes questions qu'ils se posent. Pour répondre à ces questions, tu vas pouvoir, toi, te servir de ton expérience en tant qu'homme quinca, comme on dit, mais aussi en tant que psychologue et auteur de ce livre, Psychologie du sentiment amoureux, dont je parlais dans l'introduction. On pourrait y
C'est
passer une
parfait.
journée entière tellement ton livre y regorge d'informations, mais étant donné qu'on est là pour un peu plus d'une heure, on va essayer d'être organisé. Et moi, je te propose donc qu'on aborde plusieurs grandes thématiques, et je vais d'ailleurs suivre un peu la trame de ton bouquin. Donc, on va commencer un peu par parler de certains phénomènes d'attraction et d'attirance. On parlera ensuite de certains mécanismes de séduction. On va parler un peu de quelques secrets des couples qui durent, mais aussi des raisons principales qui mènent à des séparations. Et si on a le temps, on parlera un peu des apps de dating. Bref, tout un programme. Et avant qu'on commence, je tiens à préciser une chose pour nos auditeurs et auditrices. L'objectif de ce podcast est de parler des grandes tendances observées, en l'occurrence par la science dans le domaine amoureux. Mais qui dit tendance dit par moments généralité. Donc prenez toujours du recul sur ce qu'on va dire. Il n'y a aucune vérité générale dans ce domaine. Il y aura toujours des exceptions à ce que nous avancerons. Est-ce qu'on y va, Philippe?
Correct. Très très bien, très très bien.
Je précise toujours ce genre de choses avant de commencer.
C'est bien. Comme on sait que ni toi ni moi nous ne sommes des gourous, c'est parfait.
Exactement. Bah écoute. Commençons avec la première partie de ton bouquin, l'attraction, les mécanismes d'attraction. Et moi, j'aimerais qu'on parle d'un premier chapitre que moi, que j'ai vraiment adoré. C'est celui qui s'appelle « Qui est le plus romantique ?». Dans ce chapitre, tu expliques trois choses essentielles, grosso modo, qui vont un peu à l'encontre des idées reçues. Premièrement, les hommes savent se positionner sur le type de relation souhaitée globalement dès la fin du premier rendez-vous. Deux, les hommes tombent amoureux en premier. Et trois, la peur de l'engagement chez l'homme est un mythe. Est-ce que tu peux nous en
Très
dire un peu
belle.
plus?
Ouais, les trois sont vrais. Répète le premier.
Les hommes savent se positionner sur le type de relation souhaitée dès la fin du premier rendez-vous.
C'est pas tout à fait exact. Pas tout à fait exact. C'est pas dès la fin du premier rendez-vous, c'est dès la fin des 5 premières minutes.
Vas-y, tu nous en dis un peu plus, parce que moi, quand j'avais lu ce...
Ouais.
Vas-y.
Alors, la plupart des gens ont comme ça des idées reçues sur le fait que ce sont les femmes qui sont les plus romantiques, qui s'investissent sentimentalement le plus fort et le plus vite. C'est complètement faux pour des raisons évolutionnistes, on va dire. C'est-à-dire qu'une femme qui s'engage avec un homme, elle prend beaucoup plus de risques qu'un homme. Hein? Surtout si, par exemple, elle a des enfants avec cet homme. Et donc, la perspective de l'engagement n'est pas la même. Tu peux faire des sondages autour de toi et demander aux hommes combien de temps il leur a fallu pour décider que la femme qu'ils rencontraient serait une personne importante dans leur vie et pas juste un coup d'un soir. Et la plupart te répondront 3 minutes. Donc ça, c'est déjà la première idée reçue. C'est explosif, c'est faux. C'est les hommes savent très vite s'ils veulent une vraie histoire avec la madame ou s'ils veulent juste coucher avec ou même encore moins, rien du tout.
Et tu sais,
Donc
là,
voilà.
pour rebondir là-dessus rapidement, moi je l'avais conscientisé, ça, je pense que tous les hommes on en est conscients de ça, mais quand je l'ai lu dans ton bouquin, à ce moment-là j'étais à côté de ma copine, je lui ai partagé l'étude dont tu parles dans ce bouquin, ou en gros qui en arrive à la conclusion que tu viens de partager, et j'ai dit à ma copine, et toi? Elle me fait, mais moi j'avais bien entendu, j'avais besoin de temps, je ne savais pas dès le premier rendez-vous, et moi je lui dis, mais moi je savais direct. Et là, donc on a tous les. Et souvent, quand j'en parle, j'en ai parlé dans le dernier podcast, justement, avec un autre love coach, et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages de la part des femmes qui m'écoutaient en me disant, ah ouais, ça c'est hyper intéressant, je m'en rendais pas compte. C'est pour ça que je voulais un peu en reparler avec toi.
Ouais, ça a comme conséquence que toutes les stratégies amoureuses déployées par les femmes sont vaines.
Tu nous donnes des exemples?
Ben oui, à partir du moment où je sais que la femme avec qui je vais juste prendre un verre, au bout de 5 minutes, je fais waouh, celle-là, elle me plaît vraiment. Après,
Ouais, en gros,
à
l'homme, il
moins
change
qu'elle.
pas d'avis. Tu es au deuxième ou au troisième
Non,
rendez-vous.
non,
Mais
non, non, il change pas d'avis. Il
tu
change pas
dis,
d'avis.
je me permets de citer un passage de ton livre que j'ai adoré. Alors, faut toujours prendre du recul, encore une fois, avec tout ce qu'on dit. Mais tu conclus ton chapitre en disant, je cite, l'homme est un animal simple. S'il ne vous rappelle pas, c'est uniquement pour deux raisons. Soit parce qu'il est mort, soit parce que vous ne lui plaisez pas. Et vos copines le savent, mais n'osent tout simplement pas vous le dire. L'engagement n'a pas du tout le même sens chez un homme que chez une femme. Un homme présentera sa nouvelle copine à ses proches très rapidement car il n'a pas à craindre l'opprobre en cas de rupture rapide. Ce sera même le contraire. Il pourrait y gagner une réputation de mâle super séducteur alors que l'inverse est totalement faux en vertu des diverses théories liées aux différences de genre.
Ben voilà, c'est fait, c'est résumé. Ouais, donc il y a pas de plan sur la comète. Les hommes, c'est vraiment des animaux très très simples. Tout de suite, ils aiment ou ils aiment pas. Et peu importe la nature de la rencontre, ça peut être un couple qui se rencontre en boîte, à moitié bourré et qui finissent dans les toilettes. On peut se dire une histoire comme ça, elle est forcément sans lendemain. Absolument pas. Ça ne veut rien dire. Rien.
Et justement, et si, ensuite tu dis les hommes ils tombent amoureux aussi en premier. En tout cas, c'est eux qui vont, malgré les idées reçues, qui vont souvent dire je t'aime en premier en fait.
Ça a été mesuré. Donc, oui, voilà. Pourquoi? Oui, il tombe amoureux plus vite. Il s'engage sentimentalement plus vite. Alors, je n'ai pas dit qu'il tombait amoureux au premier rendez-vous. Ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'au bout de quelques minutes, un homme, il a évalué que la madame qui est en face de lui, elle pourrait compter. Ça ne veut pas dire qu'il est amoureux, qu'il ne va plus dormir. Non, mais ça veut dire qu'il a déjà. Voilà, c'est fait. La madame lui plaît. C'est tout. Alors, je fais simple ici dans cette interview. Je fais homme avec les madames et les madames avec les hommes. Bah, tous les gays, il ne faut pas m'en vouloir. Hein. C'est juste faire toutes les combinaisons, ça va être trop long.
Bien sûr. Et de toute façon, bon, la majorité des gens que j'accompagne sont des personnes hétérosexuelles et je m'adresse particulièrement à ces personnes-là parce que, eh bien, parce que je pense que c'est encore autre chose, hein, pour les personnes qui sont homosexuelles. Il y a encore des dynamiques différentes.
Je ne connais pas.
Moi non plus, pas très bien. Et le dernier point, rapidement, donc la fameuse peur de l'engagement de chez l'homme. On entend très
Ah,
souvent
ça,
cette phrase, oh, les hommes, ils sont pas disponibles.
c'est une des plus belles légendes urbaines qui existent au monde. C'est faux. C'est faux. Et toutes les femmes, toutes nos copines, nos ex, qui sont venues nous pleurnicher dans les bottes en disant, ouais, tout était bien, mais il a peur de s'engager. Elles ont toutes vu le même gars marié un an plus tard.
Et, alors,
Toutes, elles l'ont vu.
et donc, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, si on lit entre les lignes, c'est qu'un homme qui dit à une femme, j'ai pas envie de m'engager, en fait, c'est juste, il n'ose pas dire de manière franche et honnête qu'il n'est pas intéressé, c'est ça?
C'est tout. C'est tout. Faut pas chercher plus loin. Faut pas chercher plus loin.
Est-ce qu'on a une petite idée de pourquoi les hommes, Pourquoi est-ce, alors, de ce que j'observe, là, j'ai pas d'études scientifiques à l'appui, mais de ce que j'observe, les femmes, quand un homme ne les intéresse pas, elles le disent clairement, souvent, tandis que les hommes, jamais, en fait.
Non, non, ils disent pas, ils rappellent pas, c'est tout. Je sais pas, je sais pas. J'ai
Est-ce que
pas lu
c'est un
d'études
manque de
sur le
courage
sujet.
ou une peur de.
Ça doit
Instinctivement?
s'appeler comme ça. Ben, le manque de courage étant une peur, donc oui, je pense que c'est ça. Oui, c'est vrai qu'une femme va dire, écoute, tu ne me plais pas, point. Mais un homme va avoir beaucoup plus de mal à dire ça. Puis il dira que c'est pour ne pas blesser la madame, mais c'est pas vrai.
Ouais, je suis d'accord. Et il y a une autre partie que j'aimerais bien lire de ce chapitre avant qu'on passe au suivant, que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est, je cite, sachant que le seuil d'acceptation pour des relations sexuelles est beaucoup plus bas chez un homme que chez une femme, le conseil de grand-mère invitant les jeunes femmes à ne pas coucher le premier soir n'est pas si idiot. Un homme couchera avec une femme même s'il ne voit aucun intérêt pour une relation à long terme, juste parce qu'elle est disponible à ce moment-là. Un homme couchera avec une femme même s'il n'a aucune intention de la revoir. Bien entendu, les femmes le font aussi, mais dans une moindre mesure et souvent avec des attentes différentes. Ce dernier point semble être en train progressivement de changer.
Correct. C'est en train de changer, mais finalement très très peu. Parce
Ouais.
que par contre, là, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études sur les différences de genre. En partie des études que mon fils a réalisées d'ailleurs. Il est psychologue aussi, le gamin. Et donc, finalement, les différences de genre, elles se perpétuent. Elles changent. Ça ne change pas énormément, ça change juste en apparence. Mais au fond, ça change très peu. Les filles qui ont beaucoup d'amants sont mal perçues par les hommes, mais sont aussi mal perçues par les femmes. Ça change petit à petit, ça dépend encore des milieux, mais fondamentalement, ça change peu. Un homme qui rencontre une femme vendredi et qui décide de partir en week-end avec elle samedi matin, tout le monde va trouver ça génial. Une femme qui rencontre un homme vendredi et qui décide de partir en week-end avec lui le samedi matin, elle va recevoir des messages négatifs, sous couvert de sécurité. Mais c'est sous couvert. En réalité, c'est la morale. C'est vraiment les différences de genre qui sont au XXIe siècle totalement, presque totalement préservées.
Écoute, hyper intéressant. Ok, donc maintenant j'aimerais qu'on parle d'un autre chapitre dans cette partie de l'attraction toujours, que j'ai aussi beaucoup aimé, bah, de toute façon comme tous les chapitres qu'on va aborder. Plus je suis rare, plus je suis séduisant. Alors, dans ce chapitre, en gros, tu vas parler d'abord du phénomène de rareté. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est?
Bah alors, l'effet de rareté, c'est un principe de psychologie sociale qui fait que nous sommes instinctivement attirés par ce qui est susceptible de manquer, que nous y tenions ou pas. Et donc, l'effet de rareté provoque artificiellement comme une espèce d'effet de manque.
Et
Et qui
justement,
a. Et, oui.
tu donnes un exemple, je me permets de rebondir, tu donnes un exemple avec une étude qui a été faite où en gros on a donné à deux groupes de personnes différents, à l'un un bocal contenant 10 biscuits et à l'autre groupe un bocal contenant 2 biscuits. Et à la fin, il leur a été demandé donc de goûter ces biscuits enfin, pendant l'étude et de nous dire lesquels étaient les meilleurs selon eux. Et c'était les mêmes biscuits, hein, je précise. Et les personnes du groupe qui avaient deux biscuits en face d'eux ont tous trouvé, enfin tous, non, une grande majorité ont trouvé qu'ils étaient bien meilleurs.
Oui, mais on a fait des études aussi sur la séduction, sur l'effet de rareté et la séduction. Ça a été fait dans des bars ou dans des boîtes. Et on s'est aperçu que, au fur et à mesure que la soirée avançait, la perception du niveau de séduction des partenaires potentiels augmentait. Alors, la première réflexion, c'est de dire, mais oui, forcément, plus la soirée avance, plus les gens sont bourrés, donc ils voient rien. Eh bien non, c'est logique de le croire, bien sûr. Mais en fait, non, c'est vraiment un effet de rareté. C'est-à-dire que plus la soirée avance, moins il y a de partenaires potentiels en live. Et donc, leur évaluation subjective de leur attractivité est plus élevée. Et on a mesuré ça aussi chez les gens qui n'avaient pas consommé d'alcool du tout.
Et ça c'est ouais, ça c'est hyper intéressant parce que on l'a certainement tous vécu, je pense, à un moment dans notre vie, sans se rendre compte que vraiment c'est ce phénomène de rareté qui allait se mettre en place. Et alors,
Et
concrètement,
je
chez
l'ai
les...
vécu, et je l'ai vécu à titre personnel, donc ce n'est pas une recherche scientifique, mais je me suis retrouvé à Pattaya, en Thaïlande, au début du Covid. Ça veut dire concrètement que ben, j'avais quoi, 52 ans à ce moment-là, ben, j'étais pratiquement l'homme le plus jeune de la ville, et de toute façon, les hommes, ils étaient partis parce qu'ils étaient rentrés dans leur pays, il n'y a que moi qui étais resté. Ben, traverser Pattaya, c'était devenu une épreuve. Lunettes de soleil, marcher tout droit, jamais regarder à gauche, jamais regarder à droite, parce que c'est. Au début, les premiers jours, j'ai trouvé ça rigolo. Après, plus du tout.
T'as vécu l'expérience que certaines femmes peuvent vivre.
Ah ouais, le harcèlement de rue, je pouvais trouver ça très rigolo. 2 jours, 3 jours, après, plus du tout. Et c'est pas marrant. C'est pas marrant. Surtout qu'en plus, ici, on t'attrape dans la rue physiquement. Toi, on te prend la main, on te tire. Enfin, c'est, voilà. Ça y va, quoi.
Et donc ce phénomène de rareté, il va avoir une application un peu différente entre les hommes et les femmes. En gros, ce que t'expliques, c'est que... Aux yeux d'une femme, un homme qui est indisponible, donc qui est en couple, va créer un peu plus de désir car il est un peu présélectionné, en fait, c'est ce que tu expliques.
C'est comme au boulot.
Tu
C'est
peux nous
comme en
expliquer?
recrutement. Ben, en recrutement, les candidats privilégiés sont ceux qui ont déjà un emploi.
pour cette même idée de se dire, ok, parce que le mec, il est déjà en train de faire ses preuves dans une boîte qui est pas mal.
Ouais, c'est ça. Alors que les hommes vont éviter de s'attaquer, entre guillemets, à des femmes objectivement, visiblement en couple. Et là aussi, c'est pour des raisons évolutionnistes. C'est-à-dire
S'ils ont
qu'à une
peur de la
certaine
baston.
époque, oui, de la baston si tout va bien et d'un coup de couteau si tout va mal. Alors qu'à l'inverse, des femmes qui vont avoir ce genre de comportement ultra-violent, voire même mortel, c'est quand même beaucoup plus rare.
Et je crois que d'ailleurs c'est dans ce chapitre en gros que tu donnes un conseil concret à la fin. Tu dis aux hommes dire que vous êtes pas, vous êtes, que ça fait 3 ans que vous êtes célibataire quand vous rencontrez
Ah
une
ben
nouvelle personne.
c'est un tue-l'amour, ça, non? C'est un tue-l'amour. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien jouer du violon pour plaire à madame. Ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Allez, ça va peut-être marcher avec une femme sur 1 000 qui aime bien les petits moineaux blessés. Et sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si vous êtes tout seul depuis 3 ans, c'est que vous êtes une marchandise avariée. Alors, si c'est vrai que vous êtes tout seul depuis 3 ans,
Aux
oui,
yeux de
aux
la, oui.
yeux,
Il faut
voilà.
toujours préciser.
Bien sûr que vous n'êtes pas une marchandise avariée si vous êtes célibataire depuis 3 ans, mais c'est la perception que vous allez donner. Alors, ce n'est pas la peine de s'étaler sur le sujet.
À l'inverse, tu dis que quand une femme dit qu'elle est dans une relation, une situation un peu compliquée, ou peut-être qu'elle est en train de qu'elle est en couple et qu'elle en même temps elle est dans un, par exemple, un premier date avec une personne, bon ben ça va créer l'effet inverse, l'homme il va pas trop vouloir y aller quoi.
Moins, 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 moins. Nettement moins que l'inverse. Nettement moins.
Ok, bon ouais.
Les mâles n'aiment pas être en compétition avec d'autres mâles.
Et
Parce que
justement
ça
là
peut tout simplement être dangereux.
t'emploies le terme mâle, mais parce que tu dis aussi que ce phénomène, on l'a retrouvé chez d'autres animaux comme les poissons et les oiseaux. J'ai trouvé ça assez intéressant.
Voilà, j'ai commencé par l'éthologie quand j'étais gamin. J'aimais bien les oiseaux, les poissons et tout ça. Enfin, étudier leur comportement, je trouvais ça marrant.
En amour, on est avant tout des animaux, quoi.
En amour, on est avant tout des animaux, ouais. En tout cas, sur beaucoup de points. Ouais.
Y a un autre chapitre dont le titre est assez savoureux, Vous aimez mon beau QI? Où en gros là tu vas parler de l'impact du QI et de l'intelligence sur l'attraction, sur les phénomènes d'attraction.
Ouais. Et ça, c'est vraiment, on peut y aller et faire des généralités sans se priver.
Allez, vas-y.
Parce que c'est vraiment des très, très, très grosses tendances. Alors, les grosses tendances, c'est que pour la plupart des femmes, un homme n'est jamais assez intelligent. Donc, plus il est intelligent, mieux c'est. Voilà, c'est un critère d'attraction. Alors, on pourra après chercher pourquoi, il y a des explications. Voilà. Alors qu'à l'inverse, les hommes vont dire qu'ils souhaitent rencontrer des femmes intelligentes. Mais ils vont le dire. Mais dans la pratique, il apparaît, selon de nombreuses recherches, qu'à partir d'un certain niveau intellectuel, une femme va plutôt devenir beaucoup moins intéressante et beaucoup moins attirante aux yeux de beaucoup d'hommes, qui vont le nier. Ils vont nier. Ils vont dire, c'est pas vrai, moi je cherche la femme la plus intelligente possible. Mais dans la pratique, on a pu constater que c'était complètement faux. Un homme
Et
va très mal supporter qu'une femme soit objectivement plus intelligente que lui.
on observe cette même dynamique dans les questions relatives à l'argent.
Totalement, totalement, ouais, totalement. On vit une époque qui est basée sur une certaine image, c'est-à-dire que on est dans le sentiment amoureux, les aspects matériels ne comptent pas, mais à notre époque, je parle dans les pays occidentaux. Je crois qu'on est à 80, dans 80% des couples, c'est monsieur qui gagne plus.
Et moi, j'ai beaucoup de femmes que j'accompagne qui me disent, mais moi, en soi, que le mec, il est à peu près le même niveau ou qu'il est un petit peu moins, parce que, bon, petite précision, j'accompagne des personnes qui vivent à Paris, qui sont célibataires, donc souvent qui ont un niveau de revenu qui est assez élevé. Mais elles me disent, mais c'est le mec, ça lui pose, au début, ça lui va, mais en fait, au bout de 2, 3 ans, ça crée des gros, gros problèmes, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas un problème de femme, c'est un problème d'homme. Les femmes vont rencontrer un homme qui peut payer un minimum les factures. Voilà,
Ouais,
surtout
elle
celles
crée
qui
une
ont déjà
indépendance, quoi.
elles-mêmes, surtout si c'est une dame qui a un boulot, de bons revenus, elle va pas courir après le milliardaire. Elle veut juste que le gars il puisse quand même assurer un minimum. Mais ce sont les hommes à qui ça pose problème parce que donc on a 80 dans 80% des couples, c'est monsieur qui gagne plus. Donc on a 20% d'hommes qui gagnent moins. Et dans ces 20 pour, et dans ces 20%, il y en a la moitié qui déclare clairement souffrir de problèmes psychologiques et d'impuissance.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et alors, si on prend un peu de recul, en France et particulièrement à Paris, on assiste de plus en plus à des femmes qui sont autant, voire plus éduquées que les hommes, qui gagnent autant, voire plus d'argent. Dans beaucoup de métiers, type avocat, médecin, maintenant, il y a plus de femmes que d'hommes.
Clairement.
Et donc, dans une certaine tranche d'âge, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'avais vu une étude qui disait que on va arriver à un moment, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs, où les femmes à Paris gagnent plus et sont plus éduquées. Et alors, ça crée un problème quand même avec ce qu'on vient d'expliquer.
Elles trouveront pas d'hommes à partir d'un certain âge.
Alors, on expliquera, on en parlera de cette partie-là après, ou alors ça implique aussi d'ouvrir un peu certains critères, d'autres critères. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est compliqué. Dire à quelqu'un, écoute, tu devrais être un peu ouvert à, tu vois, être moins difficile. Qui n'a pas déjà entendu cette expression, tu devrais être un peu moins difficile? Ben non, ce n'est pas possible. Je ne sais pas décider qu'une femme qui ne me plaît pas, ben tout d'un coup, elle va me plaire. C'est impossible. C'est impossible. Peut-être qu'une femme peut arriver à faire ça avec le temps. Oui, elles peuvent. Mais un homme ne peut pas. Si vous êtes une femme et que vous ne plaisez pas à un homme au bout de 2 minutes, vous ne lui plairez pas demain, ni la semaine prochaine, ni dans 6 mois. Ça n'arrive pas. Il n'y a pas de petit à petit dans le sentiment amoureux des hommes.
Ouais, alors que chez la femme, on le retrouve plus, ce qui est d'ailleurs une force, hein, je trouve.
Ouais, je me souviens, je vivais avec une madame que j'aimais, sinon je ne vivrais pas avec elle. Et au bout de 6 mois, je ne sais pas c'est quoi la conversation dans la cuisine, et au milieu de la phrase, il y a blablabla avec le. Avec l'homme que je vis depuis 6 mois et dont je commence à tomber amoureuse. Et on s'est engueulé dans la minute qui a suivi. Parce
Parce
que moi,
que.
j'étais archi dingue d'elle depuis longtemps. On vivait ensemble depuis 6 mois. Je fais comment ça? On vit ensemble depuis 6 mois et tu commences à tomber amoureuse de moi. Ben, la réflexion de gros con.
Ouais, je vois très bien.
Complètement. La réflexion de gros con. Mais voilà, ça s'est terminé en engueulade dans la cuisine. Alors que ce qu'elle me disait, c'était très mignon en réalité.
Oui, absolument. Ok. Bon, on reviendra un peu sur cette partie de où tu as dit. Voilà, moi je pense que dans ces circonstances-là, ils vont pas réussir à trouver. On y reviendra parce que c'est un sujet intéressant et je pense qu'il y a des solutions à l'inverse. Il y a un autre chapitre qui est ultra intéressant là-dedans et ça va être le dernier chapitre dont on va parler dans cette partie de l'attraction. Moi j'aime beaucoup ce chapitre, c'est l'odeur de l'amour. Pourquoi? Alors, en fait, tu vas nous expliquer que les odeurs jouent un rôle dans la psychologie de l'attirance, mais un rôle qui est quand même très important. Et en effet, je pense que tous les gens qui sont en couple ou qui l'ont été, qui nous écoutent, quand on sent l'odeur de notre copain ou de notre copine, on l'adore en fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Moi, il y avait une étude, l'étude des coussinets que j'ai trouvée. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, parce que bon, tu parles d'une heure trente.
Vaguement. Mais il y a des études qui ont été faites dans des amphithéâtres où on utilisait les odeurs corporelles d'hommes, de femmes, pour voir si ça augmentait l'attirance. Il semblerait que oui, mais d'autres études semblent montrer que non. Et donc, on devrait en rester sur le côté mignon et romantique, c'est j'aime ton odeur ou bien je l'aime pas, parce que ça aussi, ça arrive.
Bah oui.
Ça, malheureusement, ça arrive. Et ce n'est pas forcément des gens qui sont sales ou puants, c'est j'aime pas l'odeur. Mais toutes les études sur les phéromones, une phéromone, en fait, c'est une hormone qui pousse un individu à adopter un certain comportement. OK? C'est ambigu. On ne sait pas quelle importance ça a chez les êtres humains. On suppose que ça a de l'importance, mais il y a des études qui montrent que pas du tout, que ça dépend les périodes. Enfin, voilà, on n'a pas encore inventé le parfum, qui rend amoureux.
Il y a un moment dans ce chapitre, tu dis une partie qui est assez. Je cite, Les hommes, en revanche, peuvent être attirés par l'odeur du parfum, mais rebutés par l'odeur des larmes. Un article du magazine Science a révélé que lorsque les hommes reniflaient des larmes, ils ressentaient une diminution de l'excitation sexuelle, alors qu'il n'y avait aucun changement lorsqu'ils reniflaient une solution saline neutre. La nature a cru bon de faire en sorte qu'un homme croisant une femme en larmes s'intéresse à autre chose qu'à sa libido.
C'est bien fait, non?
C'est joliment dit, moi j'ai mais oui, c'est à la fois bien écrit et la nature est bien faite.
Voilà, la nature est bien faite. Voilà, on voit quelqu'un, on voit une femme qui pleure. On peut se dire, tiens, elle me plaît bien, je coucherai bien avec, mais ça ne va pas être la priorité du moment.
Ouais.
Voilà.
Ok.
Et il semblerait même, d'ailleurs, que ça diminue la libido. Quoique je suis convaincu que le fait pour beaucoup d'hommes de voir une femme en position de détresse va par la suite stimuler sa libido. Mais bon,
Par la
c'est une
suite,
autre
ouais.
histoire.
Ok. Bon, deuxième thématique où tu là vas parler plus de la séduction. Donc il y a un chapitre qui est très intéressant aussi. Je vais arrêter de le dire à chaque fois, mais c'est
Non,
séduction
tu peux continuer, tu peux
et
continuer, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir à chaque fois.
c'est le chapitre s'appelle séduction et communication non verbale. Donc dans ce chapitre, en gros, tu vas parler de l'importance de la communication non verbale dans la séduction et que justement, à ce petit jeu-là, encore une fois, malgré les idées reçues, ce sont les femmes qui vont mener la danse. Elles vont avoir une influence sur le comportement de l'homme et sur les rencontres amoureuses grâce à des signaux non verbaux. Est-ce que tu nous expliques un petit peu?
Bien sûr, si vous allez dans un endroit public, un bar, un restaurant, pas un restaurant, mais un bar ou une boîte, vous allez voir que des hommes un peu courageux vont aborder des femmes en se disant que c'est eux qui font le premier pas. Et ils le croient vraiment. En réalité, ils ne font pas du tout le premier pas. Ils ont reçu des signaux les invitant à faire le premier pas. Et le principal signal, c'est une espèce de signal visuel en balayage. C'est-à-dire que madame vous a repéré, elle vous trouve attirant, elle va vous fixer pendant 1, 2 secondes maximum, pas plus. C'est les hommes qui fixent les femmes ne fixent pas les hommes. Et donc ça va être une espèce de balayage, peut-être même va-t-elle faire un léger sourire, et ce qui va vous donner l'autorisation de lancer l'abordage. Mais croire que c'est les hommes qui abordent spontanément des inconnus, il y en a qui le font. D'abord, c'est extrêmement rare. Il y a plein de vidéos sur YouTube là-dessus. C'est extrêmement rare. Et quand c'est bien fait, ce que je constate sur ces vidéos, c'est que les femmes réagissent au moins de façon sympathique. Mais en dehors de ce cas de figure rarissime, non, ce sont les femmes qui déclenchent les premiers signaux. Sourire,
Les
regard.
cheveux aussi un peu, tu expliquais, enfin le
Il
fait
faut
qu'ils fixent
déjà
les
être plus
cheveux.
près. Il faut
Ouais.
déjà être plus près. Il faut avoir un visuel, c'est commencer à se toucher les cheveux, des choses comme ça. Donc les gestes de la séduction existent et ils sont assez codifiés. Alors, c'est pas dire que tout le monde utilise les mêmes, mais c'est quand même relativement codifié. Et donc, c'est vraiment regard, sourire. Oui, jouer avec ses cheveux, mais ça demande déjà d'être plus prêt pour faire ce genre de choses.
Et
Voilà.
globalement, tu dis aussi que les femmes vont avoir une attention à ces signaux non verbaux plus fines. Enfin, elles vont faire plus attention à ça que les hommes, qui vont être
Oui.
moins doués pour les capter, on va dire.
Ça dépend qui. Oui,
Voilà, on est dans la.
mais en général, oui, moins, parce que, encore une fois, le risque est moindre. Une femme qui se trompe, les conséquences sont plus socialement, biologiquement, plus fâcheuses que pour un homme, pour
Oui, et
qui
tu
les
expliquais
conséquences sont inexistantes.
dans ce chapitre, tu expliquais que pendant en fait une très large partie de l'humanité, quand on croisait un inconnu sur une route, on avait 3 secondes pour se faire une idée de lui, quoi.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est un danger, est-ce que c'est un allié? Il faut bien regarder. Et c'est sans doute un sens qui a été développé chez les humains. Parce que c'est une question de survie. Et la plupart de nos comportements aujourd'hui sont liés de près ou de loin à des questions de survie.
Et c'est justement aussi ces analyses de signaux non-verbaux qui peuvent créer des quiproquos.
Certainement, souvent, souvent, parce qu'un homme va aborder une femme alors qu'il n'a pas reçu les signaux adéquats, ou il a mal vu, ou il est
Il a
stupide,
mal
ou il est bourré, ou
interprété.
les deux, il a mal interprété, ça ne se passe pas bien, il peut mal le prendre, et puis ça part en sucette. Ça arrive. Tout le temps. Ouais, c'est souvent lié à l'alcool.
Ouais.
Souvent. Hein, qui rend rarement, enfin, qui nous rend rarement plus intelligents.
Mais
Hein.
rarement, en
Peut-être
effet.
qu'un verre ou deux nous rend plus intelligents.
Mais ça
Mais
dure pas longtemps.
Mais ça dure pas longtemps. Au troisième, au quatrième, c'est fini, ton cerveau est grillé.
Et il y avait aussi dans ce chapitre une étude que je trouvais intéressante. C'était, alors je ne me rappelle plus très très bien, mais en gros, il y avait deux amoureux sur un banc. Et il y avait des chercheurs qui regardaient un peu toutes les mimiques, tous les gestes. Et ils ont observé qu'en fait, c'est la femme, par plein de signaux de comportements non verbaux, qui allait un peu dicter le tempo, en fait, qui allait un peu rythmer la
Voilà.
danse. Alors autant à la danse, c'est l'homme qui mène la danse, mais autant en séduction, c'est la femme, quoi.
Clairement. Et c'est merveilleusement bien fait, parce que tout en laissant à nous les hommes le sentiment que c'est nous qui avons pris l'initiative.
Voilà.
Le premier baiser, c'est pas toujours, mais le plus souvent, c'est monsieur qui embrasse madame pour la première fois. Et il croit qu'il a pris l'initiative. Non. Chouchou, tu n'as pas pris l'initiative.
Il
Tu
a
as
été
obéi à
invité.
un ordre. Tu as répondu à une invitation. Alors parfois, ça arrive aussi que bon, on ne reconnaît pas les bons signaux et c'est là qu'on se prend le râteau.
Très éclairant. Et toujours dans la partie séduction, il y a un chapitre que tu as appelé La fille en rouge, où tu parles de l'impact du rouge vraiment dans un contexte sentimental et sexuel. Tu dis en gros que les femmes qui portent du rouge ont plus de succès. En tout cas, c'est une étude qui l'avance.
Alors, il n'y en a pas qu'une, il y en a beaucoup. Ce n'est pas tout à fait exact qu'elles ont plus de succès. Leur perception est différente. Si elles sont habillées en rouge, elles sont perçues comme plus disponibles, plus réceptives, plus ouvertes, plus sexuellement actives. Et donc, elles vont aider les hommes à passer à l'action. Mais à terme, ça ne fera pas une plus belle histoire si madame est habillée en rouge ou en bleu ou en jaune. C'est simplement la perception du niveau d'ouverture à une relation qui est complètement différente. Et on peut
Et
l'observer dans les lieux publics, on peut l'observer en boîte, on peut l'observer même sur des expériences qui ont été faites avec des autostoppeuses. Voilà. Ben, les filles en rouge sont prises plus vite que les filles en bleu. C'est aussi bête que ça. Mais pas par des femmes, uniquement par des hommes.
oui, ok, ouais, parce que sinon c'est des
C'est-à-dire
concurrentes.
les femmes vont prendre des autostoppeuses, quelle que soit la couleur. Il n'y a pas d'impact de la couleur des
Ah,
vêtements. Mais par contre,
ok.
on a vu qu'il y avait un impact de la couleur des vêtements chez les hommes quand ils prenaient des autostoppeuses. Mais c'est toujours lié à la perception de la disponibilité sexuelle. Voilà, on en est là. On ne parle pas de plaire, on parle de disponibilité sexuelle, ce qui n'est pas pareil.
En effet. Et à la fin de ce chapitre, tu dis, je cite, nous le voyons, le type ou même la couleur d'un vêtement a un impact sur la perception d'autrui, mais des recherches ont démontré que ce que nous portons modifie notre propre comportement. Lors d'une expérience avec des sportifs, il a été observé que ceux qui portaient des tenues noires avaient davantage de comportements agressifs que ceux qui portaient du blanc, par exemple. Nous avons des vêtements préférés dans lesquels nous nous sentons bien et qui nous donnent quasi des super pouvoirs.
Voilà, mais on a tous ça, non?
Ouais.
Le t-shirt pourri qu'on cache pour que madame ne le foute pas à la poubelle, tu sais quoi, la plupart des hommes ont ça, non?
Ouais,
Et
ouais.
quand on le porte, que ce soit ce t-shirt, enfin n'importe quel vêtement, on se comporte différemment. On est différent. Je suis un autre homme.
Pour continuer dans la partie séduction, encore un titre très rigolo qui nous laisse penser autre chose, mais là c'est la taille compte. Et bien évidemment, là, tu parles de la hauteur, pas d'autre chose. Et dans ce chapitre, tu nous dis que ce dont on est tous conscients, à savoir que les femmes préfèrent les hommes plus grands, et même vice-versa, souvent, ou en tout cas même taille. On retrouve un peu la même dynamique d'ailleurs qu'avec l'argent. Et j'ai oublié, et l'intelligence. Et qu'à la base, c'était dans l'idée d'être physiquement protégé par l'homme, mais qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens, mais que pourtant, les femmes continuent de préférer les hommes grands. Et tu expliques à la fin un truc, et je vais te laisser réagir. Je trouve que ce critère de taille est très intéressant, parce qu'il est sans intérêt, qu'il est la preuve que dans de nombre de nos croyances, habitudes, souhaits, valeurs, nous sommes toujours ces gens accroupis autour d'un feu à l'entrée d'une caverne.
C'est ça. Il y a plein de comportements dans notre culture, dans d'autres cultures aussi, qui n'ont plus aucun intérêt pratique. Ben, en fait, quand un comportement n'a plus d'intérêt pratique, c'est ça qu'on appelle la culture. On fait quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi. On le fait parce que voilà, on le fait. C'est ça la culture, c'est un ensemble de comportements qu'un groupe de personnes adopte en commun, mais ces comportements n'ont plus vraiment de raison d'être, mais ils continuent à exister pendant une certaine période. Ils finissent par disparaître. Ils finissent par disparaître. Les comportements qui n'ont pas d'utilité pratique finissent par disparaître, mais ça peut prendre 100 ou 200 ans. Voilà. Et donc, oui, la plupart des femmes vont vouloir sortir avec un homme plus grand qu'elles, même si en regardant bien dans les rues, vous voyez de plus en plus souvent. Ça reste pas fréquent, mais avant, c'était jamais. Mais maintenant, vous commencez à avoir des couples où la dame, elle est plus grande que le monsieur. Mais ça attire toujours le regard. On regarde. Ça n'a rien de péjoratif. Un petit sourire moqueur, quand même.
Ouais. Et tu penses que dans 100 ans ou 200 ans, ça va disparaître?
Oui. Si ça n'a pas d'utilité pratique, oui, mais il ne faudra pas ce temps-là. Hein. C'est déjà en train de disparaître. Il y a des choses qui disparaissent. Voilà. En fait, tous les comportements symboliques sont issus de comportements pratiques à l'origine. Mais l'aspect pratique a disparu. Reste que le symbolique, et le symbolique, il survit pas dans la longueur.
Ok, c'est super intéressant. Bon, parlons un peu des couples. On a parlé
Voilà.
attraction, séduction, maintenant parlons d'une partie qui est aussi ultra intéressante, c'est les couples. Et il y a un chapitre dans lequel tu donnes quelques secrets des couples qui durent. Est-ce que tu en as quelques-uns en tête?
Le premier, parce qu'il ne surprend pas, mais la plupart des gens croient que les couples les plus solides sont ceux qui ont réussi à affronter ensemble les coups durs de la vie. Ça n'est pas faux. Mais ce n'est pas les couples les plus solides. Les couples les plus solides sont ceux qui se marrent.
Ceux qui savent
Sont
rigoler ensemble.
ceux. Sont ceux qui partagent des activités, sont ceux qui savent rigoler ensemble, sont ceux qui partagent des bons moments. Voilà. Voilà, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui durent, et pas forcément ceux qui ont traversé des sales moments, parce qu'on constate d'ailleurs que dans un couple, quand il y en a un des deux qui traverse un sale moment, bah une fois qu'il est sorti de ce sale moment, ce n'est pas forcément que le couple, lui, il va y survivre, parce qu'on est rentré dans un système où il y en a un qui aide l'autre. Quand cette aide n'est plus nécessaire, ben le couple, parfois, souvent d'ailleurs, il finit par disparaître. Alors que quand on partage de la joie, ben non, ça ne disparaît pas.
Et tu dis aussi que c'est le secret des couples qui durent. Un des secrets, c'est les couples qui s'engueulent pas par message, et même on peut aller plus loin en fait, qui savent s'engueuler en gros, qui ont appris à débattre du moins ou à avoir des désaccords de manière intelligente.
Alors, j'aurais bien voulu trouver, et voilà, ça c'était dirigé, j'aurais bien voulu trouver des recherches qui montraient que les meilleurs couples sont ceux qui parviennent à régler leurs conflits en utilisant les techniques de communication non violente. Je voulais trouver ça. Ça me semblait logique, mais non, je ne l'ai pas trouvé. Bah, parce que ça n'a jamais été démontré. Et donc, les couples qui tiennent le mieux le coup sont les couples qui savent s'engueuler.
Et alors, comment on sait
Voilà.
s'engueuler?
Il n'y a pas de recette. Il n'y en a pas. Il y a des couples qui se tapent dessus quand ils s'engueulent. Il y a des couples qui murmurent, il y a des couples qui utilisent les techniques de la communication non violente. Il n'y a pas de recette, mais il faut que ça sorte, il faut que ce soit dit et surtout, il faut que ce soit suivi des faits. Je prends ma compagne avec qui je vis depuis près de 3 ans. Et ben, si on a un désaccord, sa technique et sa stratégie est très simple. Elle coupe le son. Elle ne parle plus. Et une fois, je ne peux pas empêcher de faire des tests, je veux dire, des formations professionnelles. Et donc j'ai joué le jeu, elle ne parle pas, mais je dis, ben, tiens, je vais essayer pour voir ce que ça fait. Je ne vais pas parler non plus. Parce que sinon, c'est moi qui essayais de reprendre le contact. Hein. Et là, je me suis dit, tiens, je vais voir. Elle a tenu 3 semaines sans parler.
Ah oui, donc t'as craqué.
Oui, j'ai craqué, bien sûr, j'ai craqué, j'en pouvais plus. Et je sais pourquoi elle le fait. Elle le fait parce que si elle ouvre la bouche à ce moment-là, comme c'est quelqu'un de très, très agressif, elle pourrait tout casser. Et donc, comme elle ne veut pas tout casser, elle coupe le son. Mais du coup, on va s'engueuler pour des trucs. Bon, là, maintenant, moins. Hein, quand même, avec le temps, on devient meilleur. Mais on s'engueulait tout le temps pour les mêmes choses, puisque c'était jamais résolu. Voilà. Et donc, ça, c'est très, très mauvais. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouh, là, nous deux, ça a pas allé. Bah, finalement, on en est quand même à 3 ans. Mais ça va mieux parce qu'on arrive à discuter sur les trucs qui ne vont pas, alors qu'avant, ce n'était pas possible.
Je ne
Donc
sais plus
voilà,
si
on
c'était dans ton
modifie
bouquin,
notre.
mais j'avais aussi vu une étude qui expliquait que les couples qui s'engueulent en fait assez rapidement, En début de couple, sont ceux qui vont durer plus longtemps aussi. À l'inverse de ceux qui, les
Ouais.
3 premiers mois, vont mettre tous les sujets sous le tapis. Et
Ouais,
justement, moi, un des
ouais.
conseils que j'ai avec pas mal d'hommes, mais surtout de femmes que j'accompagne, c'est que j'ai observé quand même pas mal de femmes avaient du mal un peu à verbaliser, poser leurs limites ou dire quand une chose leur convient
Ouais.
pas.
Ouais.
Et moi, ce que je leur dis, mais non, c'est dites-le, mais s'il faut s'engueuler, allez-y, quoi. Mais ça va être un vrai test, quoi.
Clairement, oui. Les bons couples, pas forcément les meilleurs, mais les bons couples, clairement, c'est ceux qui n'ont pas cette idylle parfaite. Si, ils peuvent tomber très amoureux, mais ils s'engueulent. Et dès le début, ils voient ce qui ne va pas. Et honnêtement, que ce soit les hommes ou les femmes, on voit tout de suite, presque toujours, pas toujours, mais très souvent, ce qui ne va pas chez l'autre. Au bout de quelques minutes, quelques heures.
Et c'est
Voilà.
juste soit on décide de le voir, soit de se voiler la face.
J'ai rencontré une femme qui allait me plaire énormément avec qui j'ai vécu. Le jour où on s'est rencontrés, pendant que moi je buvais un café, elle a bu 6 bières.
Oui, là, il y avait un gros, gros
Ça.
warning.
Et après, elle m'a dit pour me donner du courage, j'en avais déjà bu 2 avant.
Et toi, t'es resté?
Ouais, je suis vraiment tombé très 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 amoureux d'elle. Mais il s'est avéré que ces 6 à 8 bières, c'était vraiment l'apéritif, hein. Mais je le savais, il y a pas, elle ne peut pas dire, oh mon Dieu, mais tu m'avais caché que tu buvais. Non, au premier rendez-vous, elle s'est enfilée 6 bières et elle en avait déjà bu avant.
Donc c'était une alcoolique, ça a duré combien de temps?
Ah non.
Parce qu'à la fin,
Ah non.
t'as craqué.
Je n'en pouvais plus. J'étais terrorisé quand je rentrais à la maison. Je poussais la. Et ce qui ne faisait qu'aggraver la situation, parce que je poussais la porte pour regarder sa tête si elle n'était pas dans un moment de folie. Et le fait que je fasse ça, ça la rendait dingue. Donc ça n'en finissait plus jamais. Non, on s'est séparés. J'étais très, très malheureux. Elle, pas par contre. Mais moi, j'étais très, très malheureux de la séparation. Mais en même temps, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus la supporter. Ce n'était pas possible. Et en plus de ça, elle s'allumait un joint au réveil. Enfin,
Ouais. Et en général, c'est souvent l'inverse. C'est plutôt on trouve dans des couples des hommes qui sont un peu, qui picolent beaucoup et qui peuvent être un peu.
je pense que c'est moins vrai maintenant.
Ah ouais.
Ouais. Je pense que les addictions se sont bien popularisées chez tout le monde
Ouais, c'est vrai. Ouais.
maintenant.
Ok, est-ce que tu as un dernier petit secret de couple dans la tête ou
Ouais. Évidemment, ça c'est une évidence. Donc ça c'est bien. C'est une évidence qui se concrétise. Plus vous avez des points communs avec quelqu'un, plus c'est facile.
Ouais, donc il y a deux grands dictons, hein, qui se ressemblent, s'assemblent, où les opposés s'attirent, et toi tu le dis de manière assez claire, on est quand même beaucoup plus proche du qui se ressemble, s'assemble.
Ouais, non, les opposés s'attirent,
Pas longtemps.
c'est pas vrai. D'abord, pas longtemps. Non, vraiment, pas longtemps. Voilà. Maintenant, le fait d'avoir quelqu'un qui est complémentaire à moi, ça peut être sympa. Mais c'est clairement les points communs. D'ailleurs, tu peux te rappeler la première conversation que tu as eue avec une madame qui a compté. La conversation est systématiquement la même chez 100% des gens. C'est la
Ouais.
recherche effrénée des points communs. Ah, t'es déjà allé à Dublin? Ouais, moi aussi. Oh, c'est génial. Oh, mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'on est allé tous les deux à Dublin? Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Et pourtant, ça nous réjouit. Et si en plus on a des activités sportives, culturelles communes, ça fait plein de. Ah ouais, c'est génial. Ah ouais, c'est génial. À l'inverse, si madame vote Marine Le Pen et que le monsieur il vote Mélenchon, la fin de soirée va être compliquée. Hein.
Oui. Moi, je le. Oui.
C'est même pas pratiquement pas possible.
Ah, bah, de toute façon, d'entrée, même quand tu leur poses la question un peu en amont, même si c'est un moment où t'es pas censé trop savoir ce qui est bon pour toi, mais tout le monde dit OK, il y a une personne qui a l'autre bord politique, qui est des extrêmes. Franchement, c'est le truc qui sort le plus souvent. Et on me sort tout le temps l'extrême droite, moins l'extrême gauche. C'est ce qui est
Parce
intéressant aussi sur la France.
qu'ils ont l'air plus mignons et plus
Ouais, c'est ça, et c'est
intelligents.
plus accepté en France.
Ouais, c'est plus accepté en France, oui. Ailleurs, non. Mais en France, extrême gauche, ça ne fait pas extrême vraiment.
Ah bah si, on va aux États-Unis, c'est l'inverse, oui.
Oui, ça sera l'inverse.
Mais ça ne veut pas dire pour autant que, et je crois que tu en parles d'ailleurs, que le matchmaking basé sur les points communs est bon, parce que tout ce que tu es en train de dire, c'est basé sur une chose, c'est qu'il y a déjà une attirance forte, en fait. C'est attirance forte, on recherche les points communs. À l'inverse, chercher d'abord les points communs. En pensant que les personnes avec qui on partage beaucoup de points communs vont avoir une forte attirance, ça n'a jamais été prouvé en effet.
Ça peut influencer, si, mais ça peut influencer
Ça...
que dans un sens, et on est dans le cadre de emballer. Donc on n'est
On...
pas dans le cadre de
Ouais,
tiens,
il y
j'ai
a
envie de
plus de
rencontrer
chances.
quelqu'un.
Il y a plus de chances qu'une personne avec qui je partage beaucoup de points communs me plaise, en gros, c'est ce que tu dis.
Ou si je parviens à lui faire croire, parce que ça peut être aussi ça, si je parviens à faire croire à la personne que je rencontre que j'ai énormément de points communs avec elle, ben c'est clair que la fin de soirée peut être un peu plus chaleureuse que si je n'ai pas ces points communs. Voilà, je reconnais qu'à une période de ma vie, je l'ai utilisé, ce genre de stratégie qui s'appelle, enfin, qui est du pur mimétisme, je l'ai utilisé dans le mécanisme de séduction, et puis ça s'est une fois retourné contre moi, c'est-à-dire que je me suis mis tellement dans une situation d'avoir des points communs avec la fille que je rencontrais, mais ces points communs étaient tous faux. Et le problème, c'est qu'elle a commencé à me plaire, elle me plaisait vraiment, et puis à un moment, je me suis retrouvé, mais tu vois, à dire, oh, tiens, quel disque de jazz allons-nous écouter aujourd'hui, alors que j'écoute du métal, tu vois, je déteste le jazz. Et la bouffe, c'était aussi des brocolis bouillis, tu vois, j'avais inventé n'importe quoi. Et en plus, elle vivait, ça s'oublie pas, je revois encore l'image, elle vivait juste en face d'un snack qui était mon alimentation de base à l'époque, mais je ne pouvais pas lui dire que je bouffais que dans des snacks, tu vois, parce que, enfin, bref, j'ai arrêté de faire tout ça. Mais je l'ai fait un moment, et il faut reconnaître, oui, à court terme, et quand je dis à court terme, c'est pour la soirée ou le week-end max, ça marche très bien. Au-delà,
Ben on
vous
peut en
condamnez à
parler
l'enfer.
rapidement. C'est un des chapitres dans la partie attraction où tu parles du mimétisme. Je me rappelle plus le titre, mais je crois que c'est ce que j'aime chez toi, c'est moi. Et en gros, tu dis que quand une femme va plaire à un homme, il va avoir tendance, ou enfin, ça marche dans les deux sens d'ailleurs, que quand une personne nous plaît, on va avoir tendance à reproduire les mêmes gestes, quand on est face à face. Donc, par exemple, si elle commence à parler à un certain rythme, la personne va se calquer sur son rythme, etc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant.
Voilà, ça s'appelle la synchronisation. Alors, c'est un mécanisme qui est naturel chez beaucoup de gens qui sont bons communicateurs. Mais quand ce n'est pas naturel, ce sont des techniques qui peuvent être apprises et qui ont vraiment un impact sur votre pouvoir de séduction, qui ont un pouvoir réel. Voilà.
Moi, d'ailleurs, ce que je dis souvent, tu vas me dire ce que tu en penses, un conseil que je donne beaucoup aux femmes, particulièrement aux femmes, mais aussi aux hommes sur les applications de rencontre, je leur dis, si vous voulez avoir une discussion online intéressante et respectueuse, soyez-le vous-même. En gros, en fonction du ton que vous allez employer, je trouve que souvent les hommes vont s'adapter un peu au ton par écrit que la femme va lancer, tu vois.
Tout à fait, oui.
Et donc c'est pour ça que je dis toujours sur les profils ou lors des discussions, essayez toujours de tourner les choses de manière positive et jamais de manière négative. D'ailleurs, on va pouvoir en parler juste après de ça. Et je trouve que ça marche très bien en fait. C'est-à-dire que j'ai observé vraiment qu'il allait y avoir... J'accompagne deux femmes différentes qui ont deux personnalités différentes. Il y en a une qui tombe toujours sur des mecs ultra sympas et respectueux. L'autre, tout le temps, sur des gens... qui semble-t-il sont méchants ou irrespectueux vis-à-vis d'elle. J'ai un peu observé les conversations de part et d'autre et je voyais que le champ lexical employé était clairement pas du tout le même, la manière, beaucoup plus de jugement d'un côté que de l'autre, etc. Et ça a un impact énorme en fait.
Oui, bien sûr. Bah, c'est oui.
Alors, il y a aussi dans ce chapitre des couples, tu parles aussi des raisons qui font qu'on se sépare. Et j'en ai gardé deux, moi. La première, c'est critiquer l'autre fera de vous un célibataire. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais en gros, tu dis, je cite, dans un couple, quand vous critiquez votre moitié, chaque critique est un peu comme un coup de pelle dans le trou de votre relation. Cela veut-il dire que vous devez tout accepter et encaisser ce qui vous déplaît jusqu'à la fin de votre vie? Non. Il existe deux formes de critique. L'une où vous parlez de vous et celle où vous parlez de l'autre. Seule la deuxième est nuisible. Deux exemples. Tu ne comprends rien, ou bien plutôt, je me fais mal comprendre. Et un autre exemple, j'en ai marre de ton agressivité, ou bien je me sens agressé. Et en gros, t'expliques que dans ces deux exemples, c'est la deuxième phrase qui est bonne à chaque fois.
Chaque fois que vous parlez de vous n'êtes jamais perçu comme agressif. Lorsque vous parlez de l'autre en formulant une critique, vous êtes systématiquement perçu comme agressif. Et tout le monde se fout de savoir pourquoi vous êtes agressif. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas l'être.
Et ça, c'est
Mais
un peu de
c'est
la
pas encore
communication non violente, comme on dit.
c'est totalement de la communication non violente. Oui, tout à fait. Mais il y a pire que l'agressivité. L'agressivité ouverte, c'est déplaisant, mais il y en a qui vont vivre toute une vie comme ça. Par contre, il y a un truc où aucun couple ne survit, c'est le sarcasme. C'est fini, c'est fini. Dès que vous commencez dans le sarcasme, c'est fini. Ah, t'es encore sorti avec tes copines. Allez, allez, continue, vas-y. Tu sens la bonne odeur de célibataire qui va être la tienne? C'est pour bientôt. Continue, continue, continue. Le sarcasme, et qui en plus est plus souvent utilisé par les hommes faibles, par les hommes tout court d'ailleurs, c'est vraiment l'entrée dans la maison du célibat. Vous ne savez pas encore, mais vous êtes en couple, mais vous êtes déjà célibataire. Alors, le sarcasme, tout le monde le produit de temps en temps.
Ouais, l'objectif, c'est pas de le faire
Mais
tout le temps, quoi.
quand c'est vraiment régulier sur les mêmes sujets, elle va
Oui, en fait, ça
profiter.
peut que créer en face, déjà en retour du sarcasme, ou peut-être même à terme, la fuite, quoi. Enfin, en tout cas, bon, vas-y, c'est bon.
De toute façon, la critique exprimée, c'est-à-dire agressivité ou non exprimée, c'est-à-dire le sarcasme, qui est pire, hein, qui permet à un homme de dire, oh, mais j'ai rien dit, t'as pas d'humour, c'est la haine assurée. Et la plupart des hommes font ça. Hein. Oh, mais tu t'énerves pour un rien. Encore une nouvelle attaque. Tiens, prends ça. Vous êtes sûr que vous êtes coulé. Coulé, coulé, coulé. Vous n'allez pas vous en sortir. Il y a pas moyen.
Donc, éviter, essayer d'adopter quand même une communication non violente, comme on dit, on le voit dans tous les manuels maintenant de communication, mais c'est vrai que dans certains moments, c'est quand même super efficace. En tout cas, ça permet d'avoir une discussion un minimum apaisée, on va dire. Et
Dans
puis
certains
des...
moments.
Ouais.
Voilà, le truc, c'est que dès que vous êtes avec des gens qui ont lu trois bouquins de psycho, ils ne comprennent pas que c'est à certains moments. Parce que la communication non
Oui.
violente du matin au soir, ça peut vous rendre nerveux. Hein. Oui, je comprends ce que tu voulais me dire. Donc,
Ouais,
en
non,
fait,
mais
si je
dans
comprends
des.
bien, ton
En gros,
intention était.
c'est.
Ouah!
Dans les
Un
moments où il
peu,
peut
ça
y
va.
avoir un. On va dire dans les. Dans
Voilà.
ce type de discussions qui vont être importantes sur des sujets importants, ça peut être bien de l'employer de temps en temps, quoi. Pour pouvoir bien exprimer sa pensée et laisser l'autre l'exprimer, quoi.
Voilà, ouais, c'est ça. Mais tout le temps, ça
Ouais,
devient
c'est
vite
injouable.
énervant. Ça devient très, très énervant. Et je le sais parce que j'ai payé pour apprendre, puisqu'à une période de ma vie, bah, c'était mon métier, je l'utilisais toute la journée. Voilà. Et je me souviens être dans la cuisine avec ma compagne du moment. Elle me regarde, ça fait un an. Celle-là, ça faisait un an qu'on vivait ensemble. On a tenu longtemps encore après. Elle me regarde, elle fait, tu parles toujours comme ça, toi? Tu t'énerves jamais? J'ai compris que ce n'était pas un compliment qu'elle me faisait. Et encore, j'ai failli lui dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais je ne l'ai pas fait. Mais je l'avais sur le bout de la langue. Et je me suis dit, là, il faut changer un truc ou l'autre. Là, c'est ça, ça va pas aller. Énerve-toi, énerve-toi, crie. Voilà.
Et le deuxième conseil donc que tu donnes, c'est voilà, sarcasme, poubelle.
Ah,
Vraiment,
le
alors de temps
sarcasme.
en temps, ça peut être sympa, en soirée, quand on est un petit peu
Voilà.
bourré, mais il faut que ça s'arrête le lendemain matin au réveil, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas bon. Tout ce qui est ironie, voilà. L'ironie, c'est le cimetière du couple. Plus court, il n'y a pas moyen. L'ironie, c'est le cimetière du couple. Et non, l'ironie, c'est pas de l'humour. C'est de
Ouais.
la violence.
Et
C'est
c'est
de
un
la
Belge qui vous
violence
le
pour
dit.
l'âge. Voilà, c'est de la violence pour l'âge. Alors, on est tous un peu lâches de temps en temps, hein, donc il ne faut pas cracher dans la soupe. Je vous dirais quoi, j'ai jamais rien dit d'ironique. Ben si, évidemment, des tas de fois, évidemment. Mais quand c'est un mode de communication régulier,
Oui,
c'est
puis
pas
quand c'est
bon.
sur des sujets aussi qui peuvent être un peu perso, quand ça nous attaque nous, en fait, qu'on est ironique vis-à-vis de nous, c'est-à-dire oh, t'étais encore avec tes copains ou tes copines ou ce genre de choses, là, ça peut être encore plus, ça peut vraiment être mal pris.
Voilà.
Ok, bon, il nous reste un petit peu de temps, donc on va pouvoir parler un peu des applications. Alors c'est une partie que j'ai moins préparée, mais c'est un sujet aussi. Alors, est-ce que déjà là, si je te parle des apps et des sites de rencontres, c'est quoi le premier truc qui te vient à la tête pour parler de ça?
Ça a changé ma vie.
Tu nous racontes? Alors,
Ben, il y a
tu,
20,
dans
il y
les
a,
grandes
ben
lignes.
voilà, il y a 25 ans, 25 ans, en plus. Ouais, 25 ans, je me retrouve célibataire, après 8 ans de vie commune et un gosse. J'avais connu madame à l'université, vous voyez, le grand classique, quoi. Et donc, je me retrouve à 30, 31, 32 ans, je ne sais plus, à 30 ans, voilà, dans ces eaux. Ouais, 30 ans, 31 ans. En ne comprenant rien à ce qui est la séduction chez les adultes, puisque la dernière fois que j'avais mis en pratique, c'était à la fac, je faisais 102 kilos aussi, quand même, ça n'aide pas.
Ok.
Et donc voilà, je me suis retrouvé dans un appartement. Les 15 premiers jours, c'était marrant. Hein. C'est vrai, c'était franchement, j'ai trouvé ça génial. Mais au bout de 15 jours, je commençais à perdre la boule, quoi. J'étais obèse, seul, et je ne voyais pas comment j'allais rencontrer des madames. Et puis j'ai découvert, à ce moment-là, ça a commencé les sites de rencontres. Et je me suis inscrit, il n'y avait pas grand monde dessus, et c'était trois quarts d'hommes, donc c'était vraiment la bagarre, quoi.
Ça n'a pas trop changé à ce niveau-là.
Voilà, donc j'ai vu, mais si, quand même un peu. Et donc, j'avais pas Internet à la maison à l'époque, donc j'allais au bureau. J'allais au bureau le soir et les week-ends pour envoyer des messages. Et je me souviens à quel point j'étais dépendant de ça. Et je me souviens que j'avais mis 10 mois pour avoir mon premier rendez-vous. 6 mois. 6 mois pour avoir mon premier rendez-vous. Ça ne s'oublie pas.
En effet.
Et ça ne s'oublie pas. 6 mois pour avoir mon premier rendez-vous avec une jeune femme qui cumulait l'absence d'attrait physique et intellectuel.
Et t'y aller.
Voilà, c'est tout ce que j'avais.
Voilà, t'en parles un petit peu tu dis globalement, et on en parlait aussi la dernière fois avec dans l'autre podcast qu'on a fait avec Clément, que je vous invite à réécouter d'ailleurs, ou à écouter pour ceux qui ne l'ont pas fait. On disait que bah, globalement, pour les mecs, sur les applications de rencontres, 80% des hommes, bah, c'est très compliqué pour eux d'avoir des rencontres. Et pour les femmes, c'est l'inverse. Enfin, c'est 80%, en
Ouais,
fait, ont
c'est
des
du tri,
facilités.
c'est du tri, c'est du tri. Les hommes sont en chasse, les femmes font du tri.
Ouais, et
On est dans des rôles traditionnels.
c'est un peu la loi de Pareto qui s'applique, comme je le dis tout le temps, dans ce domaine-là. Et c'est assez. Et donc toi, ton expérience, en fait, je trouve le montre. C'est un très bel exemple. Et tu sais, quand j'en parle, ça, quand je dis à une femme, vous connaissez l'expérience des hommes de l'autre côté? Non, ben, je vais vous l'expliquer. J'explique ce que je viens de dire. Et puis là, après, du coup, elles comprennent un peu mieux pourquoi, les mecs, dès qu'il y a un match, ils envoient un message, etc. Mais je fais le même exercice pour les femmes, pour les hommes, pour qu'ils comprennent quand
Alors,
même.
la première année où j'étais célibataire, bon voilà, j'ai eu un premier rendez-vous au bout de 6 mois. C'était très mauvais à tout point de vue, mais c'est moi qui étais mauvais. Je ne me suis jamais dit autre chose. Donc, pour avoir le deuxième rendez-vous, je n'ai pas attendu 6 mois supplémentaires.
T'as appris.
Et j'ai appris, et ma règle d'or a toujours été, quand ça ne marche pas, c'est toujours ma faute.
Et t'en
C'est moi
parles
qui ai
d'ailleurs un
foiré.
petit peu dans
Ouf.
ton livre. Comment t'appelles ça déjà, le centre de contrôle interne et externe? Et
C'est
en
ça, centre de
gros,
contrôle interne.
tu nous expliques rapidement?
Un centre de contrôle, c'est ce qui guide ta vie. La plupart des gens, ils ont une maladie, et quand je dis la plupart des gens, c'est l'immense majorité de la population, ils ont une maladie. Pour moi, c'est un trouble mental qui s'appelle le centre de contrôle externe. Un centre de contrôle externe, c'est lorsqu'une personne est vraiment convaincue que ce qui lui arrive ou ce qui va lui arriver dépend du hasard ou des autres. Surtout quand c'est mauvais. Voilà. Et donc, ils n'ont pas de pouvoir là-dessus. Hein, quelqu'un qui a un centre de contrôle interne est convaincu que ce qui lui arrive ou ce qui va lui arriver, ça dépend de lui, essentiellement.
Donc il y en a un qui se
Alors,
remet
les
en cause,
deux,
qui
voilà.
apprend, et l'autre qui a une vision plus
Qui cherche les
fataliste,
coupables. Qui
ouais,
cherche
qui
les
cherche
coupables.
des bourreaux, ouais.
Qui
Et
cherche les coupables.
le monde du dating est pavé quand même de ce type de personnes.
Ah ben oui, c'est des victimes professionnelles. Les victimes professionnelles sont les gens qui deviennent les plus agressifs aussi. Une personne agressive se voit comme une victime. Donc c'est vraiment insupportable. Et donc ceux qui veulent réussir ou améliorer leur performance, j'aime pas le mot, mais leur
Allez, on.
vie en matière de séduction, la première qualité à avoir, c'est chaque fois que ça se passe pas comme je veux, considère que c'est de ta faute. Te pose pas de bêtes questions. Qu'est-ce que tu as foiré? C'est tout. Et donc, c'est vrai que j'ai mis 6 mois pour avoir un premier rendez-vous, ben, le suivant un peu moins, et puis le suivant un peu moins. Et puis ça m'est déjà arrivé un mois d'aller à 17 rendez-vous. C'était mon
Eh,
record quand même.
bien joué. Enfin, c'est pas une fierté, mais en tout cas, je veux dire l'évolution, en tout cas, la
Si,
capacité à.
un moment dans ma vie, c'était un but en soi.
Ouais,
Il fallait réparer quelque chose.
Ouais, je
C'était
comprends.
réparateur.
C'était une faille
Voilà.
narcissique
Après,
un peu.
plus. Voilà, c'est ça. Eh ben, j'ai eu de la chance. Voilà, j'étais chanceux. Cette faille, elle n'existe plus du tout.
Alors moi, je parle avec beaucoup de célibataires toute la journée, et franchement, le message qui revient le plus souvent. Concernant les apps de dating, majoritairement de la part des femmes, mais en vrai, non, même les hommes, c'est je laisse tomber les apps de dating, c'est de la merde, c'est pas fait pour moi, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que
C'est
t'en
faux, tout est
penses?
faux, tout est faux, tout ça est faux. Que ce soit les sites. Ou les apps que j'ai utilisées quand j'étais célibataire, je veux dire les 25 dernières années, on va dire que Je sais pas, j'étais célibataire, j'étais en couple, ouais, beaucoup quand même. Enfin bon, bref, non, c'est les 30 dernières années. Bref, quand j'étais célibataire, j'étais sur les apps, ou plutôt sur les sites au début. Ben, c'est vrai que quand ça ne marchait pas, comme tout le monde, j'ai tendance à dire que c'est le truc qui ne marche pas. Mais non, c'est moi qui ne marchais pas. C'est moi qui n'envoyais pas des bons messages. C'est moi qui n'avais pas une bonne présentation. C'est moi qui n'avais pas les plus chouettes photos. C'est tout. Il faut, si ça ne marche pas, améliore-toi. Ce n'est pas le site ou l'app qui ne marche pas, c'est toi.
Et même c'est aujourd'hui, hein, de plus en plus dans des grandes villes comme Paris, c'est devenu le moyen numéro un de création de couples. Et il y a même certaines études qui prouvent que les couples issus d'Internet durent au moins
Plus
autant, si ce n'est
longtemps.
plus, que les
Plus longtemps.
couples, parce que semble-t-il, il y a toute une phase de présélection qui est faite en, enfin, en gros, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, la réalité, c'est ça. Et en fait, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui s'en servent très 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 mal de ces outils. Et
Ben, la plupart, oui.
Ah
La
ben ouais,
plupart.
70-80%.
Et après, ils disent que les femmes sont ceci. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais je sais déjà que pour le gars, c'est mort, hein. J'entends, ah, les femmes sur Internet, trois petits points, c'est fini.
Ouais, ouais.
J'ai le gars en face de moi, je sais que c'est fini, c'est terminé.
Bah c'est toute une
Ou les
manière de
apps ne
voir le...
marchent pas, c'est une façon de voir le monde. Donc c'est déjà
Ouais.
une manière de perdant. Tu sais que tu es perdant quand tu fais ça. Puis
Ouais.
tu rejettes la faute sur les autres plutôt que de dire, oui, mais qu'est-ce que moi je peux faire de mieux?
Ouais.
C'est perdant. C'est vraiment la clé de la recette perdante.
Et tu en parles dans ce chapitre là où tu parles du centre de contrôle interne et externe. Tu sors pas mal d'études où tu dis clairement que les gens qui ont un centre de contrôle interne, donc qui se remettent en cause eux, en fait, tombent moins accro à différentes substances, réussissent mieux dans la vie, sont meilleurs en sport, enfin globalement ont plus de réussite à tous ces niveaux-là, quoi, et en amour
Ben,
aussi.
est-ce que vous avez déjà vu un boxeur qui se fait mettre KO sur le ring et qui, lors de l'interview, fait « c'est pas de ma faute, j'ai glissé
Non.
». Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, je veux dire, quand on est à un haut niveau, ben, comme dans le sport, ben, le centre de contrôle interne, c'est une évidence. Quand ça ne marche pas, c'est de ma faute. Et les sportifs de haut niveau, en tout cas ceux que j'entends en interview, ils sont tous comme ça. C'est eux qui le remettent en cause. Alors, il peut y avoir des soucis avec leur entraîneur, ça, mais ils ne vont pas dire c'est à cause du public que j'ai perdu. Vous n'entendez pas ça. Alors qu'en dehors de ces sportifs d'élite, vous l'entendez ça tout le temps. C'est la faute à. C'est la faute au. En France, c'est la faute au gouvernement. Voilà.
Ok. Et dernier sujet avant qu'on se quitte, qu'est-ce que tu penses des coachs? Donc, dans le monde de l'amour, hein, j'entends.
Ouais. Je pense que c'est génial.
Alors,
Alors,
je te parce que bon, il faut bien que les auditeurs comprennent.
j'explique pourquoi je trouve ça génial.
Je l'ai pas briefé avant pour qu'ils disent quoi que ce soit à ce sujet-là. On est
Non,
d'accord, Philippe.
non, non, non. Je pense que ça soit des formations en séduction, des bonnes, pas de la merde qui vous apprenne à traiter les femmes comme des déchets, mais une vraie formation de 2 jours, 1 semaine. En principe de base de séduction,
Qui est
ça
un peu
porte ses
de la
fruits.
formation en communication, finalement, souvent.
C'est essentiellement de la formation en communication. J'ai vu, chiffre à l'appui, les résultats de ce genre de formation. Non seulement ça a des impacts sur la vie amoureuse des gars qui suivent ces formations, mais en plus, on voit que le bonus est aussi dans leur vie professionnelle, avec plus de promotion, etc. Bah oui, ils deviennent meilleurs en communication. C'est pas seulement pour draguer les madames, c'est aussi pour emballer leur patron. Voilà. Alors, en ce qui concerne les coachs, bah, pour moi, un coach, bah, c'est un peu comme une formation, sauf que bah, c'est destiné à moi tout seul. J'ai un coach qui m'accompagne. Si c'est un bon coach, il ne me raconte pas des conneries, il ne me donne pas des conseils de débile, il m'écoute, il me pose les bonnes questions qui vont me permettre de réfléchir et de modifier moi-même mes comportements. C'est du tout bon.
Et pour
C'est
les
du tout
femmes,
bon. Même chose, même chose. Même les
toutes
problèmes
les
de séduction
problématiques
ne
vont être
sont pas les
différentes.
mêmes. Elles
Ouais.
sont complètement
Ça
opposées.
va être
Pour la
gérer le flux plutôt.
plupart, voilà, les hommes, c'est comment avoir des opportunités. C'est ça le principal problème des hommes, c'est comment avoir des opportunités. Les femmes, elles peuvent avoir toutes, même les plus laides, 20 opportunités par jour. Et donc, le coaching ou formation chez les femmes, c'est pas pour. C'est juste, ça va être pour faire le tri. Ça va être le tri sélectif. Ça va être comment éliminer? Parce que j'ai entendu dans toute ma vie plein de femmes dire, je tombe toujours sur le même genre d'homme. Et la fois suivante, bah oui, c'est encore le même. Mais t'es conne ou quoi?
Ouais, il faut remettre, en gros, il faut remettre.
Si. Voilà, ça peut pas être un hasard qui tombe sur toi. Donc il y a quelque chose qui émane de toi qui fait que le mec qu'il te faut pas, ben, et c'est justement celui-là qui arrive. Et non seulement c'est celui-là qui arrive, mais tu as les premiers signaux
Ben comme on
et
dit,
tu n'en tiens pas compte.
une fois c'est du hasard, deux fois c'est une coïncidence, trois fois c'est un pattern.
C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Alors pour
Donc
ceux qui ne sont pas parfaitement bilingues sur l'anglais, pattern, c'est juste modèle.
ouais, c'est un modèle. Donc si c'est arrivé trois fois d'affilée,
C'est un
hein, je
modèle,
pense que
ça. C'est un
c'est le
modèle, c'est un
moment.
modèle. C'est un modèle, c'est un modèle. Alors même trois fois, ça peut encore être un hasard extraordinaire.
Ouais,
C'est
donc
toujours
à
possible.
quatre, on va dire que là, s'il
À
faut commencer à.
quatre. Mais déjà, à deux, trois, commence à t'agiter, quoi.
Ouais.
La probabilité du hasard est faible. Donc, moi, à un moment, voilà, je tombais que sur des femmes qui ne m'aimaient pas. Ce n'est pas qu'elles ne m'aimaient pas du tout, mais elles ne m'aimaient pas beaucoup. Et je tombais que sur ça. Ben, à un moment, il faut quand même te poser des questions. Ce n'est pas possible que ce soit systématiquement ça. Ben, c'était mon comportement qui l'induisait. Et puis un jour, il y en a une qui m'a, que, à qui je proposais qu'on aille partir, je ne sais pas, au week-end ou une journée. Elle fait, ouais, je ne sais pas. J'avais l'habitude d'entendre ça. Ouais, je ne sais pas. D'un côté, j'ai envie d'y aller, mais d'un autre, non. J'avais l'habitude d'entendre ça. Et puis de ma bouche sont sortis les mots, écoute, ben, si tu n'es pas sûr de vouloir y aller, moi je suis sûr que j'ai plus envie d'y aller. Allez, salut. Et puis j'ai raccroché et j'étais libre. C'était fini. Ça ne m'est plus jamais arrivé par la suite. Plus jamais.
On a le pouvoir, on a les clés en nous, quoi. C'est.
Alors pas en tout, hein, faut pas déconner, on n'a pas le
Non,
pouvoir.
mais
Surtout
en tout
si
cas.
je marche dans la rue et qu'il y a un avion qui me tombe sur la tête, je suis mort, je ne pouvais pas l'éviter. Mais en matière
En tout cas, de.
de
Voilà.
comportement, oui. De comportements qui sont récurrents ou qui sont dans la durée, quand ça ne va pas, on a tous une part de responsabilité, une grosse part.
Ben, moi, voilà, moi, ce que je dis dans le domaine de l'amour, des rencontres, de la séduction, tout ça. Il y a quand même rarement de fatalisme. Je veux dire, bien entendu qu'il y a des situations qui vont un peu nous tomber dessus, mais on a toujours le pouvoir en nous de décider de continuer ou pas, de les modifier ou pas, etc. Et je trouve que c'est quand même très optimiste comme discours.
Oui, absolument. C'est très optimiste.
Ouais, bah c'est
Très.
bien voilà, de savoir qu'on peut changer les choses. Bah écoute, Philippe, c'était super intéressant. J'ai pas vu le
Je
temps
trouve
passer.
aussi, moi non plus.
Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire avant qu'on se quitte?
Oui, bien sûr. Si vous n'êtes pas content de ce que vous avez, changez-le.
Bah écoute, c'est très bien. Et écoute, je te le. Encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Comme je te le
Avec
disais, ton.
très, très, très grand plaisir. Voilà, bon, c'est très, très, très chouette. C'est vraiment très sympa, très intéressant. Et puis, c'était bien parce que c'est vraiment un sujet passionnant qui interpelle quand même beaucoup de monde.
Ah bah ça, oui. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, je vais mettre le lien. Alors, je vais mettre le lien du bouquin de Philippe dans la description. Franchement, je vous conseille, c'est un petit manuel pour moi dans lequel vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'estime sans prétention avoir un certain niveau d'expérience déjà dans ce domaine-là. Mais j'ai quand même été. J'ai appris énormément de choses, j'ai été fasciné. Et franchement, il y a plein de choses à appliquer dans sa vie personnelle, pas qu'en amour d'ailleurs, mais beaucoup en amour. Et franchement, je vous le conseille. Petit livre de chevet pour ma part, de table de chevet.
En tout cas, merci pour
Écoute.
l'invitation et pour le bon moment.
Mais écoute, avec plaisir. Par moments, j'avais l'impression de parler à une sorte de Benoît Poulvord slash Michel Houellebecq. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais juste partager cette émotion.
Poulvord, ça ira. Houellebecq, un peu moins, mais bon,
C'est vrai?
ouais. Je me sens plus Poulvord que Houellebecq, on va dire.
Bah écoute, moi j'ai juste vu deux points communs. C'est la Thaïlande et le côté écrivain.
Voilà. OK.
Merci beaucoup Philippe. Et puis à la prochaine.
À prochainement, oui. Antoine, merci. Au revoir.